Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 22. Nous sommes le 17 octobre 2019 et on attaque tout de suite. Pam pam. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce mug. Alors déjà, je tenais à passer un petit message. Donc je suis désolé pour le dernier mug où ma connexion a coupé en mode total random. Alors, il y a deux hypothèses. Soit c'est juste dans ma résidence, il y a eu des soucis de déconnexion, c'est déjà arrivé. Il y a des techniciens qui débranchent des câbles de fibre de façon un peu random, c'est arrivé à d'autres personnes. Dans ma résidence, donc c'est possible que ça soit ça, ou alors je me suis fait censurer par le gouvernement chinois. Je sais pas, en vrai je penche plutôt pour l'hypothèse numéro 1, la faute a pas de chance, surtout que ça m'était arrivé il y a 2-3 semaines aussi, donc bon. Mais c'est vrai que c'était rigolo parce que c'était pile au moment où je parlais de la Chine, de Blizzard et tout ça, donc voilà, c'est vrai que dans la journée après au taf, je me suis dit mais... Est-ce qu'il n'y a pas un petit pourcentage de chance que ça soit... Bon, bref, non, honnêtement, je pense pas. Après, si c'est ça, bon, bah, putain, c'est dingue, quoi. Ça veut vraiment dire que... les réseaux sociaux sont scrutés. Mais bon, je ne pense pas. Bonjour à tous ceux qui sont là, en tout cas, et qui écoutent. Hypothèse 2, ça fait plus de buzz, me dit Jérôme. Oui, ou Marion, peut-être, c'est le compte Nowtech. Voilà, donc en tout cas, bonjour à tous ceux qui sont là, qui écoutent l'émission en direct dans la chatroom, et bonjour à tous ceux qui écoutent cette émission en replay audio. Aujourd'hui, on a, pas des grosses news. L'actu high-tech est quand même assez light. Je crois que c'était hier hein, où ça a beaucoup parlé des annonces de Google. Moi, justement, j'en parle pas beaucoup là parce que je pense que tout a été dit hier. Donc écoutez, on va attaquer le Kawa. Le Kawa n'est pas extrêmement serré. Par contre, la tartine aujourd'hui va être un peu plus velue parce qu'on va parler de vie privée et on va parler un peu des arguments du fameux, pour ou contre le fameux « je n'ai rien à cacher », donc pas de souci si je me fais collecter les données, surveiller tout ça. Donc j'ai essayé de faire une sorte de petit dossier avec des notes et tout ça. Et puis le but, c'est qu'on en discute dans la tartine. Donc voilà, donc le kawa va être un kawa, c'est un américain aujourd'hui, un kawa très léger. Et ensuite, on passera à une tartine bien confiturée et bien beurrée. On attaque. Dans ce kawa, nous allons commencer par parler d'un thread Twitter. Alors bon, moi, Twitter, j'y suis plus trop, donc c'est vrai que, heureusement qu'il y a les sites de news, parce que sinon, j'aurais totalement raté ça. Il y a un utilisateur qui s'appelle Summoner Dliam qui a fait un thread sur Twitter, donc qui a fait un fil Twitter pour supprimer un maximum de ses données en ligne. Alors donc vous savez que moi dans mon mug à moi et dans ma tartine, j'essaie toujours d'avoir un angle un petit peu plus axé protection des données, vie privée et tout ça, parce que je pense que c'est très important. Et donc ce Dliam hein, qui est sur Twitter a fait son petit fil avec plein d'étapes, ce fil est vraiment vraiment intéressant, je vais vous le copier tout de suite dans le chat, et pour ceux qui écouteront en replay, bah, n'hésitez pas peut-être à nous le demander sur le Twitter a posteriori. Donc voilà, je voulais copier dans le chat. Donc cette personne donne des étapes, alors il y a sur le blog du modérateur, ils ont fait un petit récap de ces étapes, donc c'est ce que je vais vous donner maintenant. En gros, dans les grandes lignes, ce qu'il faut faire pour supprimer son empreinte en ligne un maximum, dans les grandes lignes, en ligne, c'est bien, retrouver tout d'abord les accès à toutes les boîtes mail utilisées depuis vos débuts sur internet, donc essayez de retrouver tous vos comptes email, supprimer vos comptes sur tous les services web que vous avez utilisés, testés, via une recherche de mots-clés dans vos boîtes mail. En gros, ce qu'il disait dans le fil Twitter, c'est de faire une recherche en disant avec les mots welcome ou sign in ou sign up, parce que c'est les mails qu'on reçoit automatiquement quand on s'inscrit sur des vieux sites. Vous avez ensuite à vérifier sur le site qui s'appelle Have I Been Pwned, qui est un site qui permet de vous mettez votre email et ça vous dit si votre mot de passe est sur une base de données utilisée par les hackers. Et pour savoir si donc votre mot de passe a été compromis, donc vous faites ça sur chacun de ces emails. Bah, moi, par exemple, je m'étais fait doxer à l'époque de YouTube, quand je faisais des vidéos. Doxer, ça veut dire que quelqu'un avait chopé mon numéro, m'avait appelé, tout ça. Bon, voilà, pour mettre le petit coup de pression, c'était pas un moment très très rigolo. Et en fait, pourquoi ? Parce que j'avais sur mon vieux mail, j'avais été compromis et mon mot de passe. En fait, le mot de passe que j'utilisais sur Cdiscount était le même que j'utilisais un peu partout. Donc la personne, de façon très intelligente, fait le lien entre ça et m'a chopé mon numéro, mon adresse et tout ça. Bon, heureusement, je n'habite plus au même endroit, même si je suis assez convaincu que quelqu'un qui se démerde à peu près bien trouverait mon adresse facilement. Mais voilà, en tout cas, c'était pas un moment très rigolo. Donc effectivement, d'ailleurs, tous ces conseils-là valent d'autant plus si vous êtes, on va dire, une personnalité sur internet ou si votre métier est d'être exposé en ligne, clairement. Ensuite, il faut utiliser la Google Console pour mettre à jour les résultats de recherche. Je ne connaissais pas du tout la Google Console. Bon, c'est plus détaillé dans le flux Twitter. Interdisez à Google d'utiliser vos data, ça quand même. Supprimez vos anciens mails. Voilà, dès que vous avez fait le tour, dès que vous avez supprimé les anciens services, les anciens machins, vous supprimez votre mail, en sachant que vous pouvez utiliser le RGPD pour mettre la pression et demander à la suppression de vos comptes. Et voilà. Changez vos mots de passe régulièrement. N'utilisez pas le même partout. Utilisez un gestionnaire de mots de passe. S'il vous plaît, c'est vraiment le préservatif d'Internet, j'insiste lourdement sur ce terme, ne pas avoir de gestionnaire de mots de passe, que ça soit en entreprise ou que ça soit sur votre navigation Internet est un gros danger de sécurité. Protéger votre connexion avec un VPN, bon, ça c'est peut-être un peu too much honnêtement, ça peut être bien dans certains cas, mais globalement c'est pas non plus indispensable. C'est pas mal sur des réseaux publics éventuellement. Utiliser des comptes jetables, ça oui, vous avez des services comme Yopmail qui permettent de faire des emails temporaires, donc sur des sites un peu pourris, bah, vous pouvez utiliser des adresses Yopmail, ça fonctionne bien, sauf certains sites qui interdisent ces adresses-là, et dans ce cas-là, vous créez des comptes Google bidons. Vous pouvez mettre le même numéro de téléphone pour créer des comptes Google ou des Yahoo ou des machins un peu bidons. Et ensuite, vous supprimez tout ce que vous avez publié en ligne, en sachant quand même, je tiens à le rappeler, que tout ce que vous mettez en ligne est potentiellement en ligne à l'infini, enfin, ad vitam aeternam, comme on dit, hein, voilà. Et bien sûr, comme le dit Jérôme dans la chatroom, ou Marion, attention aux VPN gratuits. Ok. Ensuite, on passe à une autre news un petit peu plus serveur, cloud et tout ça. Amazon qui dit définitivement bye-bye à Oracle. Donc le cybermarchand annonce avoir achevé la migration de l'ensemble des bases de données sur lesquelles repose son activité grand public depuis les systèmes Oracle vers ses propres infrastructures sur Amazon Web Services. Hein, Amazon est connu aujourd'hui pour proposer beaucoup, beaucoup de services de cloud et de serveurs et tout ça. Et apparemment, bah, ça y est, c'est terminé. Avant, ils avaient encore du Oracle, des serveurs, des systèmes Oracle. Hein, et ça y est, ils ont tout migré sur leur propre truc, ce qui n'est pas très, très étonnant parce que ça leur permet d'avoir la mainmise sur la chaîne de production des serveurs du cloud de A à Z. Voilà, donc ça a réduit, grâce à cette opération, Amazon dit avoir réduit les coûts de ses bases de données de plus de 60% et abaissé de 40% la latence des applications consommateurs. C'est pas étonnant, encore une fois, s'ils ont le contrôle total sur leurs bases de données et sur les services web, ben voilà, ils peuvent totalement optimiser sans souci. Voilà. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. En tout cas, ce live ne l'est pas. Par contre, il l'est par Shadow, et on en parlera tout à l'heure. Bon, c'est vraiment une news très très light, hein, le Amazon et Oracle. Hein, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Voilà, ils ont migré 75 pétaoctets de données, ce qui est absolument gargantuesque. Il me semble qu'un péta, c'est 1000 tera, si je dis pas de conneries. Donc ça fait 75 000 teraoctets, je pense bien que ça doit être ça. Dites-moi dans la chatroom si je me trompe, mais il me semble qu'un péta c'est 1000 tera. Ce qui est beaucoup de données, hein. Clairement on va pas se mentir. Reparlons un petit peu de Catalina. Vous savez que, bon, on en a pas mal parlé dans le mug, mais j'en avais parlé dans une news, Jérôme en avait reparlé, et j'en reparle encore une nouvelle fois, mais là, là pour le coup, ça peut être intéressant pour certains parmi vous. Oui, Oracle, c'est ceux qui ont... qui maintiennent Java, je pense que ça serait le terme correct. Bref, donc Catalina qui est le nouveau système d'exploitation d'Apple, hein, le nouveau macOS, la nouvelle version pardon de macOS. Vous savez que Catalina ne prend pas en charge les applications 32 bits. Elle ne se lance plus du tout sur Catalina, sauf qu'en fait, c'est bien sûr une limitation logicielle et pas matérielle parce que les processeurs Intel sont totalement capables de continuer à lancer du 32 bits. Donc en fait, c'est du bridage logiciel, mais à titre personnel, je trouve que c'est justifié, parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même évoluer, il faut qu'on abandonne les anciennes architectures, même si je peux comprendre que dans certains cas spécifiques, vous avez un vieux driver d'imprimante, des trucs comme ça, bah ça marche plus, et c'est chiant. Donc pour exécuter du code 32 bits sous Catalina, en fait, il y a une ligne de commande qui peut être exécutée, qui peut être lancée, par contre, attention. Parce que, deux choses, cette ligne, déjà, il faut désactiver la protection SIP, alors je ne me rappelle plus exactement ce que ça veut dire, mais je crois que c'est au niveau du BIOS, hein, du Mac, que ça se désactive, donc ça réduit la sécurité du Mac. Et deuxième chose, ça ne permet pas de lancer des interfaces graphiques en 32 bits, ça permet uniquement de lancer des lignes de commande, et éventuellement peut-être des drivers et des choses comme ça. Donc faites attention, et la ligne de commande pour ceux que ça intéresse, bon bah je pense que je peux vous l'écrire là hein, si ça vous intéresse, mais globalement je pense que je vous la mets, hein, voilà. Mais je pense que ceux qui sont intéressés iront lire l'article, hein, Samuel a dû déjà le mettre tous les articles dans la description pour avoir un petit peu plus d'infos, et voilà, heureusement que j'ai lu les commentaires, parce qu'en fait, par défaut vous aurez une erreur hein, en mettant cette ligne de commande sauf si vous désactivez cette fameuse protection SIP, et là je vous invite à utiliser votre moteur de recherche favori pour disable SIP macOS et vous aurez la méthode. Voilà. Un article un peu plus long, très intéressant, bien que super glauque et super horrible. Une gigantesque plateforme pédopornographique a été démantelée en désanonymisant les transactions Bitcoin. Les autorités américaines, en collaboration avec les autorités coréennes, ont mis fin à cette horreur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? La procureure de Washington a révélé ce 16 octobre la fermeture de Welcome to Video. Putain, rien que le nom est déjà glauque. Le plus gros site pédopornographique qui ait jamais existé, opérant sur le Darknet en mars 2018. Bon, en général, quand on dit le darknet, c'est que en fait, c'est des URL qui sont pas, qui sont pas référencées sur des moteurs de recherche. Hein. Toutes les transactions étaient effectuées en Bitcoin et ce site était géré par un Sud-Coréen de 23 ans qui s'appelle Jong-woo Son. J'espère que je n'écorche pas son nom, quoique en vrai, vu ce qu'il a fait, on s'en fout. Qui purge actuellement une peine de 18 mois de prison en Corée. Alors, peut-être que certains diraient que c'est très peu. Je pense que on n'a pas été au procès, donc je sais pas. Moi, j'ai l'impression là comme ça, moi de moi-même, que c'est pas beaucoup, 18 mois de prison pour gérer une plateforme comme ça. Mais bon, j'imagine qu'il a eu un procès, que j'espère équitable, malgré que ce qu'il ait fait est absolument horrible. Et bon, j'ose espérer que cette peine de prison est juste. Mais moi, je trouve que c'est pas beaucoup. Bref. C'est pas grave, je ne suis pas juge et c'est pas à moi de juger. Quelques petites infos sur le site parce que je trouvais l'article assez intéressant. Sur Welcome to Video ont été découverts des centaines de milliers de pages avec plus d'un million de contenus montrant des enfants. Les enquêteurs ont dit n'avoir jamais vu une chose pareille. Putain, tu m'étonnes. Actif depuis 2015, le site contenait 250 000 vidéos uniques. 45% d'entre elles n'avaient été recensées nulle part ailleurs. Comme une plateforme classique, Welcome to Video proposait à ses utilisateurs de s'inscrire gratuitement pour échanger des contenus entre eux. Des points étaient offerts, le truc c'est un système VIP et tout, non mais c'est du délire. Des points étaient offerts en ajoutant du contenu ou en parrainant un nouveau membre. Il y avait un abonnement VIP contre du Bitcoin, hein, donc équivalent 328$ en Bitcoin, et ça donnait 6 mois de téléchargement gratuit. Et en gros, un utilisateur du site, ancien agent fédéral des États-Unis, aurait téléchargé plus de 50 heures de vidéos. Les enquêteurs ont enregistré 7300 transactions qui auraient été traitées par le site pour 730 000$. Bah putain, ça génère de l'argent, hein, c'est vraiment glauque. Tout a commencé en 2017 lorsqu'un des agents, donc ça c'est l'enquête, hein, tout a commencé en 2017 lorsqu'un des agents du département a remarqué que le jeune Coréen avait mal configuré son site, ce qui a permis de choper son adresse IP et de remonter jusqu'à lui, ou tout du moins jusqu'à son pays, hein, parce que l'IP donne en général le pays et potentiellement aussi la ville. Et c'est en suivant après les bitcoins que l'agence est parvenue à localiser donc Jong-woo Son, et après des utilisateurs du site. Voilà, donc apparemment un travail super efficace de la part des agents de renseignement. Voilà. La capacité de notre agence, hein, c'est Don Forte, le chef de la section criminelle de l'Internal Revenue Service. La capacité de notre agence à analyser la blockchain et à désanonymiser les transactions Bitcoin a permis d'identifier des centaines de prédateurs à travers le monde. En tout cas, on voit encore une fois que c'est sûrement pas la collecte de masse des données qui a permis de faire avancer les choses, mais un vrai travail de policier, de recherche et d'analyse pour remonter à la piste de ces malfaiteurs, quoi. Voilà. Au total, 337 personnes ont été arrêtées dans 38 pays différents. La France n'a pas été mentionnée. Bon, je pense quand même qu'il doit y avoir des Français dans le lot. Au moins 23 victimes d'abus sexuels de la part d'utilisateurs de Welcome to Video ont pu être secourues aux États-Unis, Royaume-Uni et Espagne. Au moins un point positif, ça fait plaisir. Enfin, et au-delà du fait que ce site a été fermé. Voilà, bon désolé, c'est pas la news très très fun, mais c'est quand même, c'est quand même appréciable de voir qu'un joli travail d'enquête a pu dégager un site dégueulasse. Donc ça fait plaisir. En tout cas, je trouvais que l'article était assez intéressant de voir comment ils ont fait ça. Après, j'aurais bien aimé des détails un peu techniques sur comment on désanonymise le Bitcoin. Je serais très curieux parce qu'a priori le Bitcoin est censé être anonyme. Donc voilà, un peu plus d'infos là-dessus aurait été super intéressant. On n'en a pas, c'est pas grave. Mais au moins, vous avez toute l'histoire. Voilà. On avance. Oui, je suis d'accord avec toi, Vaïa. Enfin, j'ai lu ton commentaire. On peut se dire, vaut mieux qu'il regarde des vidéos que de passer à l'action. Mais le problème, voilà, comme tu le dis, c'est que des vidéos ont été tournées. Donc, en fait, il y a quand même des enfants qui souffrent dans le monde à cause de ça, quoi. Donc, il n'y a pas de bon truc, en fait. Dans les deux cas, c'est terrible, vraiment. On passe à un article très court, avec très peu d'infos malheureusement, alors que j'aurais aimé en avoir un petit peu plus. Je sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'est moi qui en avais parlé, mais pas sûr. Le gouvernement français avait décidé de taxer les GAFAM à hauteur de 3%, mais non pas sur les bénéfices. Donc c'est bien ça, attendez, voilà. Donc le gouvernement français a taxé, j'en avais parlé notamment avec Amazon, a taxé les GAFAM, les GAFA précisément, je crois que Microsoft n'y est pas, à hauteur de 3%, mais pas sur les bénéfices, mais sur les revenus, je crois, il me semble. Et en gros, bon, bah ça a pas plu aux Américains. Amazon a décidé de répercuter aussi cette taxation sur les vendeurs de sa plateforme et non pas sur ses revenus lui-même. Enfin, en gros, l'argent ne sort pas de sa poche. Et en gros, donc le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, son nom n'est pas évident à prononcer, c'est M-N-U-C-H-I-N, Mnuchin, ouais, je pense que c'est ça, a déclaré mercredi qu'on s'approchait d'un accord sur la taxe numérique entre la France et les États-Unis. Donc a priori, il devrait y avoir un accord officiel, parce que la taxe était française, hein, la taxe a été émise par le gouvernement français, et a été faite un petit peu rapidos, parce que bah, les GAFAM GAFA en tout cas, ne paye quasiment pas d'impôts en France, alors qu'il génère un revenu complètement hallucinant. Oui, sur le chiffre d'affaires, voilà. Les 3% ont été mis sur le chiffre d'affaires et pas sur les bénéfices. Et donc, ce qu'il faut savoir de cette news, c'est pas grand-chose, hein, c'est qu'en gros, il n'y a pas d'accord, mais on s'en approche. C'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et le secrétaire américain donc, qui ont dit ça, hein, que voilà, ils s'approchaient d'un accord. Le projet prévoit de laisser en place le nouvel impôt français sur l'activité des grands groupes de technologie jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau plan fiscal international négocié dans le cadre de l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération du développement économique, ou coordination, je sais l'un ou l'autre. Une fois la solution de l'OCDE trouvée, la France a accepté de l'appliquer de façon rétroactive. Voilà. Bon, en gros, il n'y a pas grand-chose à savoir de plus. Et puis, voilà. Donc, a priori, on s'approche d'un accord pour peut-être que les GAFAM soient un petit peu plus taxés, ce qui serait pas mal, qu'ils payent un peu mieux leurs impôts en France. Ça serait bien. Une news très légère, Jennifer Aniston qui a posté une photo sur Instagram en réunissant les 6 personnes de la série, enfin en gros les six acteurs principaux de Friends, et elle a cassé Instagram parce qu'en fait il y a eu tellement de trafic que le site n'a pas réussi à gérer. Bon, si ça vous intéresse, je peux vous montrer la photo. Alors moi, Friends, c'est pas du tout une série à laquelle je suis attaché, hein. Moi j'ai beaucoup regardé How I Met Your Mother plutôt. Et je préfère, enfin j'essaie de regarder quelques épisodes de Friends, mais voilà, je crois que à partir du moment où il n'y a pas le côté nostalgique de la série qu'on a regardé quand on était enfant ou ado, moi je suis pas du tout rentré dedans. Par contre, How I Met Your Mother, j'ai beaucoup plus aimé. Tiens d'ailleurs, allez hop, débat dans la chatroom tout de suite. How I Met Your Mother ou Friends, dites-moi tout de suite et je lirai de temps en temps. Bref, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc Jennifer Aniston, elle a généré un trafic énorme avec 7 millions d'abonnés en moins de 24 heures, ce qui à mon avis doit être le record, et 8,4 millions de likes pour le cliché, ce qui fait que sa page est devenue temporairement inaccessible, ce qui est un score absolument délirant quand on y pense. Bon, il doit y avoir une partie qui sont des robots, mais pas commandés par Jennifer Aniston ou quoi, c'est juste que, en fait, il y a tellement de bots et de robots sur Instagram, dès qu'un post devient populaire, les robots arrivent dessus pour le liker, pour apparaître et tout ça. Il y a Kos qui nous dit How I Met Your Friends. Eh bien, écoute, tu regardes un épisode sur deux, c'est ça? Tu regardes un épisode de Friends et un épisode de How I Met Your Mother. Ça, pourquoi pas? Friends, How I Met Your Mother, les deux. How I Met. Bon, c'est un peu partagé. Il n'y a pas de, comment dire, de série favorite majoritaire. J'ai regardé les deux. J'aime les deux. How I Met Your Mother est plus culte vu qu'on en parlait en direct quand c'est sorti. How I Met, j'ai décroché au bout de 2-3 saisons. Ouais, ça je peux comprendre. Moi aussi, How I Met Your Mother. Alors, pas 2-3 saisons, mais à partir de la cinquième, je trouvais que ça devenait un peu redondant et que c'était un peu. Ça commençait à s'épuiser, je trouvais. Bref. Donc voilà, Jennifer Aniston qui a cassé Instagram. C'est fou. Bref. Reparlons un petit peu de Huawei. Huawei qui équipera probablement ses futurs P40, donc les haut de gamme, de deux OS. J'allais dire c'est une première dans le milieu des smartphones, mais je crois pas. Je crois qu'il y a déjà eu des smartphones qui avaient du dual boot. Donc là, il y aura de l'Android et de l'Harmony OS. Donc ça sera du dual boot, hein, potentiellement, et ça sera à votre. C'est vous qui choisirez le système que vous voulez, en sachant que voilà, Android, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Android. Il n'y aura pas les applications Google, il n'y aura pas les services Google parce que le constructeur chinois, donc enfin Huawei, est toujours sous sanction américaine et ils n'ont plus la licence Android, ils ne l'ont toujours pas. Donc l'Android que vous aurez en dual boot pourra être de l'AOSP, hein, de l'Android Open Source Project, comme quand par exemple on installe des ROM alternatives du style LineageOS, c'est basé sur AOSP. Mais vous n'aurez pas les services et les applications Google. Alors pour un public chinois, c'est pas forcément embêtant, mais pour un public européen, pour un marché européen, c'est plus emmerdant. Alors après, vous aurez le choix d'avoir Harmony OS. Moi, j'imagine que ça doit être basé sur de l'Android, mais avec tous les services de Huawei. Personnellement, c'est un truc que je n'installerai pas à titre personnel parce que je, voilà, j'ai pas du tout confiance dans les données récoltées. Moi, ça me gêne vraiment. Mais pourquoi pas, pour ceux que ça ne dérangerait pas, et je peux totalement comprendre, il y a plein de gens qui ont MIUI de l'interface de Xiaomi, qui récoltent pas mal de trucs, qui demandent des autorisations, des fois sur des moments, sur des endroits, ça n'a aucun sens. Mais voilà, bon, pour ceux que ça ne dérange pas, eh bien, vous aurez le choix et vous pourrez installer Harmony OS. Après, oui, François-Michel, on pourra trouver toutes les applis Google assez facilement. Mais en fait, tu pourras utiliser des petites, comment dire, des petites bidouilles du style. Moi, j'ai Aurora Store, qui en fait est un proxy, est une application qui se connecte sur le Play Store et qui te permet de télécharger quand même tes applications. Et ça marche bien. Donc, tu as toujours des solutions alternatives, mais tu n'auras pas les services de Google. Voilà, ça, il faut bien le comprendre. Petit bug sur Android, un bug qui draine la batterie des smartphones, donc ça peut vous concerner si vous êtes sur Android. L'assistant virtuel de Google serait victime d'un bug qui entraînerait le drainage des batteries des smartphones sur lesquels il est activé et sollicité. En fait, qu'est-ce qui se passe? En gros, quand vous sollicitez Google Assistant, si vous avez par exemple plusieurs appareils Google chez vous, l'assistant virtuel va s'allumer sur tous les produits, donc que ce soit votre smartphone Android, que ça soit, donc peut-être un Pixel, que ce soit le Home Mini, le Home Max, etc., etc. Donc si vous dites la fameuse phrase, je ne vais pas la dire, hein, mais c'est Google, voilà, comme ça vous le déclenche pas. Donc tous vos trucs vont s'activer, vous faites votre requête, et normalement, bah, quand vous avez fini votre requête, ça éteint tous les trucs. Sauf que non, ça n'éteint pas, apparemment il y a un bug qui fait que ça n'éteint pas les smartphones Android. Et le problème de ça, c'est que, bah, évidemment, si votre téléphone reste allumé, ça va drainer la batterie et aussi ça peut vous, si vous avez de l'OLED, ça peut vous faire des brûlures d'écran si vous ne faites pas attention et si vous laissez votre téléphone allumé plusieurs heures comme ça. Ce qui peut arriver, hein, vous faites une requête, je sais pas, avant de dormir et en fait vous n'avez pas vu puisque votre téléphone est dans le salon, j'en sais rien. Bah voilà, ça peut vous laisser le smartphone allumé toute la nuit et sur de l'OLED, c'est pas bon plan. Donc en gros, là, aujourd'hui, vous êtes obligé de quitter manuellement ce mode écoute, ce qui est pas fun, ce qui peut être un peu relou, parce que ça va à l'encontre de l'automatisation de ces requêtes-là. Donc voilà. Et enfin, dernière news, hein, je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup beaucoup de news, et pas forcément d'énormes news aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc, League of Legends, moi je suis assez intéressé et assez curieux de voir ce que ça va donner. League of Legends arrive enfin sur mobile et console. Donc il y a eu une conférence de Riot, hein, il n'y a pas longtemps, qui a annoncé énormément de choses, mais notamment leur nouveau jeu qui s'appelle Wild Rift, qui est en gros la version consolisée et mobilisée de League of Legends. Cette version arrivera en 2020 sur mobile et sur console. C'était une conférence, voilà, dédiée aux 10 ans du jeu. Alors, ça sera pas exactement le même jeu, ça sera un portage intitulé, donc comme je vous l'ai dit, qui s'appellera Wild Rift. Il n'y aura pas de crossplay, donc vous ne pourrez pas jouer sur PC avec quelqu'un qui est sur console, c'est pas plus mal, parce que les contrôles sont inégaux. Les joueurs sur mobile, non mais ça je l'ai dit, par contre vous aurez le même compte League of Legends, et vous aurez des bonus sur le même profil, donc j'imagine que vous gagnerez des points d'influence, pour ceux qui jouent à LoL, hein, vous gagnerez des points d'influence de la même façon pour débloquer d'autres personnages, enfin je l'espère en tout cas. En tout cas, ça pourrait être sympa. Le gameplay, ça sera le même, ça sera du 5 contre 5. Voilà. Wild Rift comptera au départ 40 champions venus de League of Legends. Tous les champions pourront être déverrou... le... tous les champions peuvent être déverrouillés gratuitement. Et tous les achats sont purement cosmétiques. Voilà, c'est Riot Games qui a précisé ça sur le Google Play Store. Bon, à voir, hein. Je pense que ça va garder le même système comme League of Legends, où en gros vous pouvez acheter vos héros, enfin les champions, soit avec des points d'influence que vous débloquez dans le jeu, soit avec des PO, des pièces d'or, je crois. Je ne me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai pas joué à LoL. Voilà, donc vous aurez le choix de faire les deux. Donc pour ceux qui payent, vous pourrez débloquer des champions plus rapidement, et évidemment donc des skins. Et alors, point intéressant qui m'a un petit peu fait sourire par rapport à ce que je racontais la semaine dernière sur Blizzard et l'influence de la Chine dans les entreprises aujourd'hui, les premières versions bêta et alpha sortiront en Chine en premier. Donc comme quoi, voilà, c'est, il me semble, hein, que d'ailleurs que Riot est, comment dire, majoritairement détenu par une entreprise chinoise. Donc ça m'étonne pas. Et en soi, j'ai pas spécialement de problème avec ça, mais c'est juste, voilà, je tenais à le souligner, je trouvais ça assez intéressant de voir qu'effectivement, ben voilà, il y a la Chine est très implantée dans le milieu du jeu vidéo. Et on s'en rend pas forcément compte en Europe, mais c'est le cas. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui aiment League of Legends, moi je pense que j'essaierai. J'y rejouerai un petit peu, j'essaierai de voir ce que ça donne. Mais si League of Legends arrive sur la Switch, ça peut être vraiment sympa. Oui, c'est Tencent, je crois, l'entreprise qui détient Riot principalement. Bah vous savez quoi, je vais vérifier. Riot, si on va sur Wikipédia, on devrait avoir l'info, je pense. Riot Games, Wikipédia, voyons voir. Actionnaire Tencent, ouais, et qui est une entreprise chinoise, tout à fait. Alors, je ne sais pas à quel niveau ils ont des parts, mais en tout cas, l'actionnaire principal, ça doit être Tencent, donc chinois, donc logique. Voilà. Pour terminer ce Kawa, vous le savez, on va parler du sponsor de l'émission, RPZ sur la petite veste américaine. Le sponsor de l'émission, donc vous le savez, l'émission est sponsorisée par Shadow, et vous avez un mois de Shadow à gagner toutes les semaines. Pour participer, il faut aller sur Twitter et suivre le Twitter de Shadow-France, donc vous followez, et vous postez un tweet en disant « Je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le mug Nowtech pour jouer ou pour utiliser le logiciel de votre choix, ce que vous voulez. » Ça peut être Premiere, Photoshop, ou jouer à des jeux vidéo comme League of Legends par exemple. Bref, on s'en fout, c'est vous qui choisissez. Et le vendredi, donc demain, Jérôme et peut-être avec Marion, annonceront le gagnant de la semaine. Et si vous êtes déjà abonné, vous ne pourrez pas rajouter ce code pour avoir un mois gratuit, mais vous pourrez le partager à personne de votre entourage pour éventuellement lui faire tester le service. Voilà, on va passer maintenant, on a terminé le kawa, on va passer à la tartine. Et donc aujourd'hui dans la tartine, c'est une tartine où
on en a gros
parce qu'on va parler de vie privée, et c'est à partir aussi de ce moment dans l'émission que je vais lire un petit peu plus le chat. Donc bonjour à tous ceux qui sont là, hein. Bonjour Guillaume, tu seras tout seul demain, d'accord Jérôme? Donc bonjour à tous ceux qui sont là, hein, je vous salue un petit peu plus personnellement, hein, Techni Savoir, Guillaume FR, François Michel, Samuel, toujours présent, le tutérien, Edmondson, toujours présent, Edmondson d'ailleurs. Bref, bonjour à tous ceux qui sont dans la chatroom et qui sont présents, donc n'hésitez pas à débattre hein, de tout ce qui va être vie privée, et aujourd'hui, on va parler du fameux argument du « je n'ai rien à cacher ». Alors je vais sortir mes petites notes, le mug tartine, voilà, j'ai mes petites notes avec tout ce que j'ai noté par rapport à la vie privée. Donc aujourd'hui, on va parler de ce sujet-là par rapport justement à la fameuse phrase quand quelqu'un, quand vous dites à quelqu'un que bah voilà, il faut faire attention à sa vie privée et que la personne vous dit ouais, mais bon, je m'en fous, j'ai pas grand-chose à cacher, j'ai rien à cacher, j'ai une vie normale, je sais pas, je fais telle profession, je vis ma vie, j'ai des enfants, peu importe, voilà, j'ai rien à cacher, je suis pas un malfaiteur et voilà, enfin, je comprends pas pourquoi je devrais faire plus attention que ça, les services de Google me vont très bien, etc. Donc, le but, c'est, encore une fois, vous le savez, pour moi, pas de vous faire la morale ou de pas vous faire culpabiliser, parce que je considère que c'est la pire des façons de, comment dire, de militer ou de faire changer les choses, mais plutôt juste de vous présenter un peu des arguments. J'ai essayé de peser le pour et le contre, mais c'est très dur de peser le fait de se faire surveiller à fond, parce que, bah globalement, je suis biaisé, hein, je trouve que les arguments qui sont pour le respect de la vie privée sont plus forts, mais j'ai essayé quand même de dire un petit peu des arguments pour la surveillance et pour la collecte généralisée des données. Donc on va essayer d'en discuter un petit peu, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, en sachant que voilà, c'est un peu une version bêta de ce format là pour moi de débat, d'argumentation et tout. J'ai vraiment essayé de le faire en mode note, hein, pas en mode chronique où je parle pendant 20 minutes sans vous consulter. Donc il y a un petit risque que ça soit un peu décousu, mais voilà, je vais essayer de présenter des arguments par rapport à la vie privée, et je pense que vous n'êtes pas venu ici pour souffrir, hein, moi non plus.
Je suis pas venu ici pour souffrir, ok.
Voilà, donc on va pas essayer d'être lourd ou quoi, et on va attaquer tout de suite. Donc on va d'abord parler des arguments contre la vie privée. En gros, les arguments pour lesquels on pourrait accepter d'être surveillé en permanence et que nos données soient collectées, et en soi, bah, pourquoi pas. Donc tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on y réfléchit rapidement, on peut se dire bah, c'est du bon sens. Je veux dire, si j'ai rien à cacher, je suis quelqu'un de normal, ce que je vous disais au début, là. Moi, j'ai un métier classique, je suis développeur, je fais de mal à personne, j'ai une petite femme à la maison, ou j'ai mon homme à la maison, peu importe. Voilà, j'ai des enfants et je vis ma vie tranquillement. Donc effectivement, on peut suivre cette logique, on peut se dire, bah oui, bah il n'y a pas de raison de s'inquiéter, on peut mettre des caméras un peu partout, même chez vous, bon bah a priori, voilà, vous avez rien à cacher, vous avez une vie normale comme tout le monde, donc pourquoi pas, enfin a priori, ça peut, c'est du bon sens, je veux dire, pourquoi pas. On peut se dire que bah, dans le meilleur des mondes, c'est vrai que cet argument-là serait aussi vrai, parce que bah, s'il n'y a pas d'intérêt économique, s'il n'y a pas de voyeurisme, si la loi et la morale n'évoluent pas, bah pareil, on peut être surveillé, on peut collecter les données, et il n'y aurait pas de souci. Également, y a eu des cas où les caméras dans les rues, ça se déploie de plus en plus dans les villes, notamment à Nice, hein, je crois, parce que le maire de Nice, qui est Christian Estrosi, si je ne dis pas de conneries, déploie de plus en plus de la vidéo, alors ils appellent ça vidéoprotection, moi je préfère dire vidéosurveillance. Les caméras dans les rues permettent d'identifier des individus, des malfrats, et c'est vrai, ça a permis de... Je suis sûr qu'il y a des enquêtes, c'est même sûr, parce que j'ai un article, là, j'ai essayé de sourcer un peu les choses, il y a des criminels qui ont été détectés grâce aux caméras de surveillance, donc on ne peut pas dire en tout cas que c'est inutile. J'ai pris mes notes, donc en fait, dans 1 à 3% des cas, sur l'article du Monde, sourcé lui-même, où il y a des criminels qui ont été détectés. Mais voilà, c'est efficace, pas souvent, mais c'est efficace quand même, donc on peut se dire... Pourquoi pas? Je veux dire, la sécurité, c'est important. Si quelqu'un vous tape dans la rue et qu'on peut le reconnaître, on peut le détecter grâce à des caméras de surveillance, pourquoi pas? Mais en vrai, bon sens, pareil, ça peut être pratique. Et autre point que je trouvais assez intéressant comme argument, l'analyse par intelligence artificielle de vos comportements sur Internet, on peut très bien imaginer que les États et la police mettent en place avec Google, avec Apple, chopent les données que vous publiez sur ces sites-là, vos recherches Google, et avec de l'intelligence artificielle, en gros tout ce que vous avez tapé sur la barre de recherche Google, soit mis dans une IA comportementale qui va détecter ce que vous tapez, et éventuellement, grâce à ça, deviner que certaines personnes pourraient devenir des criminels plus tard. Et après tout, pourquoi pas ? C'est vrai que si on peut mettre en place des algorithmes comme ça, et qui peuvent détecter des pédophiles dans 10, 20 ans, parce qu'ils ont tapé certains trucs de recherche particuliers, ou sur des sites pornographiques, etc. Bah voilà, on peut se dire que, pourquoi pas, l'intelligence artificielle peut nous servir à ça, et l'intelligence artificielle arrive déjà à prédire des comportements. Ça a été prouvé, c'était à la nuit du hack, hein, que j'avais vu ça, où l'IA qui pouvait commencer à détecter des criminels en fonction de ce qui... des déplacements dans des villes, dans des machins. Voilà, bon. Donc ça, c'est les arguments, on va dire, contre la vie privée, ou en gros, qui pourraient justifier qu'on peut mettre des caméras partout et on peut collecter toutes vos données. J'essaie vraiment, c'est dur pour moi, c'est très dur, mais j'essaie d'être le plus neutre possible. Je le suis pas, hein, je suis complètement biaisé, on est bien d'accord. Mais j'essaie d'être le plus neutre possible, donc voilà, les caméras de surveillance qui permettent de détecter des criminels, l'analyse par IA des comportements qui pourraient, à long terme, peut-être détecter des futurs criminels, des choses comme ça, bon, voilà. On peut se dire que ça peut être effectivement une bonne solution, mais... Là, je vais arriver aux arguments pour la vie privée, pourquoi il faut le protéger. En fait, c'est compliqué. De toute façon, ce débat-là est assez compliqué. Parce que, en fait, il joue sur, comment dire, sur des peurs qui sont primaires. Mais quand quand on regarde les études qui sont faites par rapport à la vidéosurveillance, des choses comme ça, ou au terrorisme, je vais en parler juste après, on se rend compte que c'est très peu efficace. Donc, je vais... et qu'en fait, c'est... Vaut mieux... protéger la vie privée. Je vais en parler. Donc, tout d'abord, je parlais de l'intelligence artificielle juste avant. Hein. Je disais qu'effectivement, on pourrait deviner des malfrats, des choses comme ça. Le problème de l'IA, et je pense que vous le voyez par exemple sur YouTube, c'est un exemple très léger, sur les vidéos qui sont démonétisées parce qu'il y a par exemple le mot « guerre » dans le titre de la vidéo. Le problème de l'IA, c'est que l'IA, aujourd'hui, hein, et je pense que même dans le futur, elle le sera encore, est pleine de biais et de préjugés. Et il y a plein d'exemples qui le prouvent, donc là, j'en ai plusieurs qui sont intéressants. Par exemple, l'IA de Microsoft sur Twitter qui s'est mise à devenir nazie, à avoir des propos antisémites, etc., etc., l'IA sur des sites d'analyse de visage, c'était Hardisk qui en avait parlé dans une vidéo. Il avait montré un site web qui permettait de détecter l'attitude des gens en donnant une photo. Et en fait, sur ce site web, il y a beaucoup de gens qui avaient un problème avec ce site, mais ce site était une démonstration de ça. Qu'en fait, l'IA, quand vous mettiez des personnes typées, donc notamment de couleur noire, ça donnait des résultats racistes. Voilà. Et pourtant, c'est une intelligence artificielle qu'on pourrait imaginer neutre. Et en fait, elle ne l'est pas. Et pareil, il y a aussi Google qui avait fait un algorithme anti-haine. Ça a discriminé les personnes afro-américaines. Voilà. Donc le problème, c'est qu'en fait, les intelligences artificielles ne sont pas... ne sont pas neutres. En fait, elles se remplissent de préjugés, et le problème, c'est que, on peut imaginer s'il y a une IA qui permet d'embaucher des gens, si vous la consultez et que vous avez une personne de couleur noire qui arrive, l'IA peut potentiellement vous dire non, c'est dangereux, alors que, vous faites l'entretien, quoi, enfin, vous en savez rien, chaque personne est différente, quoi, peu importe la couleur. Donc voilà, donc premièrement, l'IA peut être biaisée. Je vais essayer de lire un petit peu vos commentaires. Il ne faut pas croire que c'est qu'aux US, la surveillance à outrance. Non, mais même en France, la loi renseignement a débloqué énormément de choses, et notamment, alors je ne sais pas où on en est des boîtes noires posées dans les fournisseurs d'accès Internet, mais il est très certain que le gouvernement français récolte déjà pas mal, enfin vraiment beaucoup de choses. Même si aujourd'hui on n'a rien à cacher, dans l'avenir il peut en être autrement. Oui, ça c'est un argument que je vais présenter, Vacarme le Rouge. Voilà. Le Content ID de YouTube est actuellement... sur le respect des droits d'auteur, de là c'est plus dur. Mais oui, mais bon, tu vois bien que, qu'en tout cas, l'IA ne peut pas être fiable. Amazon va deviner ce que je vais acheter, c'est peut-être parce que je mets des trucs en favori. Alors justement, ça c'est vrai que c'est un argument, on va dire, plutôt en faveur de la collecte des données, c'est que on peut se dire qu'effectivement, le fait qu'il y ait des recommandations pertinentes de produits, ça peut être intéressant. Et moi, pour moi, ça l'a été. Là, je fais attention maintenant de ne plus trop donner d'infos comme ça, mais ça peut l'être, en tout cas. Elles sont en place, les boîtes noires, et tournent à plein régime. Ok, bon, c'est cool que tu aies cette info-là. On ne sait pas comment les pays seront dans quelques années. Oui, alors, pour moi, c'est un des principaux arguments. Donc, Voilà. Premier argument, l'IA, on peut pas trop compter là-dessus parce que c'est plein de préjugés et tout ce qui va, voilà, tout ce qui va être big data, collecte de données massives, eh ben, même si on applique des algorithmes dessus, on peut avoir de grosses erreurs. Et il y a des gens qui ont été fichés S par erreur à cause de ça. Bref, deuxième point qui est super important, c'est tout simplement la psychologie. C'est-à-dire que l'être humain, on n'est pas simple, on est des créatures complexes et en gros. On a un besoin, c'est prouvé par des études. Hein. De toute façon, tout ce que je mets est sourcé. L'article de Wikipédia sur la vie privée est intéressant et il y a beaucoup, beaucoup de sources, donc je vous invite à aller le voir. Mais l'être humain a un besoin naturel d'intimité, de vie privée. Et je peux vous le prouver très facilement, c'est que je pense que ça vous gênerait beaucoup d'avoir des caméras dans votre chambre, même si c'est des caméras de l'État français ou de la police, ça vous gênerait beaucoup. Et je suis assez convaincu qu'en couple, vous feriez pas grand-chose au lit, en tout cas, moi non, si vous aviez des caméras dans votre chambre, ou on peut imaginer aussi des caméras dans vos toilettes qui vous filment sous tous les angles, parce que, encore une fois, bah, si vous avez rien à cacher, on peut vous filmer dans votre chambre. Voilà. Mais je pense que ça vous gênerait. Et pourquoi ça vous gênerait intuitivement, profondément? Parce qu'on a un besoin d'intimité. C'est humain. C'est humain. Je peux pas... dire plus, c'est vraiment, il y a beaucoup d'études sur la psychologie humaine qui le prouvent, que si vous êtes dépourvu de votre vie privée, vous commencez à devenir fou. C'est, en prison, c'est un des gros problèmes des prisons, et le droit à la vie privée, pour moi, est un droit fondamental humain, et en tout cas au respect de son intimité. Là, on est plus sur de l'intimité que sur de la vie privée, mais c'est quand même très très lié. Il y en a quelques-uns que ça peut stimuler des caméras, oui, je n'en doute pas, mais quand elle est contrôlée par toi, pourquoi pas. Mais là, quand tu sais que tu peux être surveillé et tout, enfin, ça serait... Ouais, bizarre. Également, ça a été prouvé, il y a tout ce qui est lié à la panoptique, qui est une prison qui est faite en cercle pour que le gardien puisse surveiller tous les prisonniers en même temps. Ça a été prouvé que vous changez de comportement quand vous savez que vous pouvez être observé. Voilà. Et moi, je me suis vraiment retrouvé plusieurs fois à ne pas taper certaines recherches Google parce que j'avais pas forcément envie que ça soit enregistré. Pour des raisons X ou Y, il y a des recherches Google, tout ce qui va être développement web et tout, pourquoi pas. Mais il y a des recherches Google, notamment, bah, par exemple, je sais pas, un médicament ou un truc comme ça. Bah, si vous tapez ça, ça peut être enregistré et ça peut être réutilisé dans le futur et on ne sait pas trop comment. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu la visite de la police parce qu'ils avaient des engrais, certains engrais, ils avaient fait des recherches sur Amazon et tout ça, de produits d'engrais, donc pour leur jardin, qui, associés à certains autres composés chimiques, pouvaient donner des bombes artisanales, voilà, alors que ils étaient innocents. Donc en fait, c'était la présomption de culpabilité, ce qui est quand même pas super terrible. Voilà, en fait, Pierre-Yves, tu dis un truc important. Le problème n'est pas fondamentalement la collecte en elle-même. C'est pas grave si des données sont collectées. Ce qui est important, c'est comment elles sont collectées. Est-ce que vous êtes bien au courant de ce qui est collecté? Et est-ce que vous êtes d'accord? Voilà, c'est ce que vous êtes d'accord et comment ça va être utilisé. Si effectivement certaines données sont collectées, mais de façon personnelle, chiffrée et utilisées que dans certains cas, je pense notamment à des données médicales, et si vous êtes sûr que ces données sont vraiment bien protégées, pourquoi pas ? La collecte de données en soi n'est pas un souci. Mais par exemple, quand c'est des entreprises où leur but c'est de faire de l'argent et qu'elles collectent des données médicales sur vous, c'est bof quoi. Voilà, en fait c'est ça, Vaïa, tu tapes régulièrement des médicaments pour ton boulot, tu n'en sais rien, c'est ça le problème, tu dis que c'est pas collecté en mode c'est ton traitement, tu n'en sais rien. Si tu tapes des médicaments, je sais pas, je prends des médicaments de chimiothérapie, si tu te renseignes là-dessus, ou par exemple si un enfant se renseigne là-dessus, Google peut deviner que peut-être c'est un de ses parents qui est en cours de chimiothérapie, qui a un cancer. Et donc proposer des publicités ciblées un peu glauques. C'était arrivé à une nana qui pouvait pas avoir d'enfant. Là, j'ai pas mis l'article dans mes sources, mais c'était arrivé à une nana qui pouvait pas avoir d'enfant et qui s'était mis à taper des trucs par rapport à ça et à avoir des publicités sur des... c'était sur quoi ? Sur des produits pour bébés. Et ça l'avait mis très très mal psychologiquement parce qu'en fait, elle était en mode... Ça lui rappelait constamment qu'elle pouvait pas avoir d'enfant, qu'elle était stérile. Voilà. Plus grave avec les assureurs, ouais, je vais en parler de ça, justement, c'était mon prochain argument. Par rapport à l'assurance maladie, par rapport aux assurances maladie, aux mutuelles ou aux emprunts, imaginons, je prends un exemple intéressant, imaginons que vous allez voir un psychiatre parce que ça va pas dans votre vie, ou un psychologue, peu importe, que vous allez le voir régulièrement et que vous notez ses rendez-vous sur votre agenda Google. C'est fortement probable que si Google partage ses données à une banque ou à des banques, ou voilà, qu'on vous refuse des emprunts. parce que ben, on peut imaginer que vous êtes psychologiquement pas stable et on vous refuserait des emprunts. Voilà, sur des emprunts sur 20-30 ans, ben non, on vous les donnerait pas. Basé sur juste des rendez-vous sur des agendas Google. Et en fait, le problème de ça, c'est que les données récoltées, elles vous rendent coupable alors que vous êtes innocent. Et on est dans le système inverse de ce qui devrait être enfin, ce qui est même le système judiciaire français, où en fait, dans ce cas-là, vous devez, normalement, dans le système judiciaire français, on doit prouver votre culpabilité. Vous ne devez pas prouver votre innocence. Là, avec ces données récoltées, c'est l'inverse. En gros, vous devez prouver votre innocence, ce qui est souvent plus compliqué. Voilà. Faut bien comprendre que le but d'une assurance est de faire de l'oseille, bien sûr. Et ils vont pas prendre de risques, hein. S'ils savent que, enfin, s'ils ont le choix entre Madame Michu et Monsieur Michou et que l'un des deux a vu des psychiatres dans sa jeunesse, bah, ils vont prendre la personne qui n'en a pas vu, quoi, parce que a priori, elle est plus stable, quoi. Autre argument qui est super important, si hein, là aujourd'hui, je sais pas quel âge vous avez dans la chatroom, mais là, peut-être pour les gens un peu plus jeunes, on va dire, vous pensez pas du tout à militer un jour en politique ou dans des associations, etc. Mais si un jour, on change hein, tous dans notre vie, on change au fur et à mesure des années, si un jour vous avez envie de militer, vos recherches Google, ou tout ce que vous avez mis, ou votre historique de site coquin, ou des choses comme ça, parce que vous avez peut-être des préférences sexuelles qui sont pas dans la norme, et ben tout ça pourrait se retourner contre vous, si ces données sont stockées, récoltées, et qu'on sait pas où elles sont stockées, est-ce que vous avez le droit de les... Est-ce que quand vous faites une demande RGPD, elles sont vraiment supprimées? Pas sûr. Voilà, vous en avez aucune certitude. Voilà, donc ça, c'est un gros, gros problème. Que penses-tu du DPM? Je ne sais pas ce que c'est, Vaya. C'est déjà le cas, tu prends l'exemple d'un crédit à la banque, a déjà des données de consommation. Non, mais bien sûr. Bien sûr que c'est déjà le cas, mais moi, je trouve que c'est pas... Voilà, c'est pas un système qui me plaît. Parce qu'on te présume coupable. Par défaut, ce qui est pas terrible. Pareil, il y avait un... Alors, j'ai pas retrouvé cette source-là, et ça me fait chier parce qu'elle était super intéressante, mais il y avait une étude qui montrait que avec la musique que vous écoutez, notamment c'était fait sur Spotify, on pouvait dégager très facilement votre profil politique. Bon, ce qui est pas en soi très étonnant, hein, j'imagine que si vous écoutez du reggae, il y a quand même de bonnes chances que vous penchiez pardon, plutôt à gauche, et que si vous écoutiez du Carla Bruni, vous penchiez plutôt à droite, même si, encore une fois, ce sont des généralités, et je pense qu'il y a des gens de gauche qui écoutent du Carla Bruni et des gens de droite qui peuvent écouter du reggae et je souhaite ça à tout le monde. Bon, peut-être pas d'écouter du Carla Bruni, moi bon, je suis pas très fan, mais je souhaite ça à tout le monde d'avoir comment dire, des goûts musicaux très variés parce que c'est super cool. Mais voilà, c'est possible et on sait que Spotify sur le niveau vie privée ils sont pas terribles et c'est pas impossible que les données d'écoute qu'ils récoltent puissent être vendues à des entreprises tierces quoi. D'ailleurs c'est peut-être déjà le cas. Voilà. Ensuite, bah, l'argument que beaucoup de gens ont dit dans le chat qui me paraît super intéressant, c'est que vous ne pouvez pas être certain, pardon, que ce que vous faites aujourd'hui ne sera pas interdit le lendemain. Alors, je vais faire un point Godwin, hein, la fameuse Seconde Guerre mondiale, enfin, l'avant-Seconde Guerre mondiale. Les Juifs en Allemagne, qui sont allés se faire recenser en 1936, eh ben, je pense qu'ils l'ont bien regretté quelques années plus tard. Voilà. Donc encore une fois, en fait, c'est des données qui ont été récoltées, hein, c'est du recensement de leur religion, et ça a été complètement utilisé contre eux par la suite pour les persécuter. Donc voilà. Et donc c'est pas complètement ahurissant d'imaginer que, je sais pas, je prends un exemple des personnes qui seraient homosexuelles, puissent être persécutées avec un autre gouvernement qui dit que l'homosexualité est une abomination, blablabla. Ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, on est bien d'accord là-dessus, bien au contraire. Mais voilà, et c'est pas impossible. C'est pas impossible que ça soit utilisé contre ces personnes-là. Et je dis homosexuel, mais c'est LGBT en général, quoi. Donc voilà. Tu m'as déjà posé la question, Vaya, du DPM, je ne sais pas ce que c'est. Ça se passe comment si on écoute du Carla Bruni qui chante Bob Marley? Bah, la Terre explose et voilà, et l'humanité est terminée. Facebook permet de génocider les Juifs à cause de Facebook Graph? Oula, je sais pas du tout, j'ai pas du tout suivi, quoi. En même temps, quelqu'un qui avait un psy est peut-être plus équilibré que quelqu'un qui n'y est jamais allé. Bien sûr! Mais on est d'accord, Jérôme. Mais le truc, c'est que t'es quand même présumé coupable. D'où cette problématique-là. Ce que je trouve scandaleux, c'est que Trump accuse Huawei d'espionner alors que non seulement c'est infondé, et en plus Google, qui est américain, ne fait pas mieux. Ça, c'est vrai. Alors, c'est infondé. Oui, c'est vrai qu'il y a... tu as raison sur le fait qu'il n'y a pas eu de preuve sur les appareils Huawei, les routeurs et tout ça, qu'il y avait des trucs qui captaient les données. Mais je suis d'accord avec toi, Chine, États-Unis, même combat. Hein. Honnêtement, ce qu'a révélé Snowden, c'est pas terrible. Hein. C'est même complètement pourri. Et donc, la seule différence, c'est qu'il y a un peu plus de liberté d'expression si on regarde les statistiques. Je sais plus, je crois que c'est l'ONU qui fait ça, je crois. Les statistiques de liberté d'expression, c'est un peu plus élevé aux États-Unis. Mais globalement, ce que font la Chine et les États-Unis avec la collecte massive de données, même combat, hein, totalement. Deep Packet Monitoring, je ne sais pas du tout. Alors, dossier médical partagé. Ah, ok, oui, mais c'est peut-être DMP, alors, effectivement. Dossier médical partagé, je ne sais pas. J'en pense que... Malheureusement, j'ai pas trop confiance dans le... Moi, je crois que je l'avais refusé. J'ai pas trop confiance dans la sécurité du dossier médical. Donc, je crois que je l'avais refusé. Je comprends l'intérêt et la praticité de la chose, mais ouais. Voilà. Ensuite, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Alors, point super important que je veux vraiment que vous gardiez en tête, la collecte massive de données. Donc, ce que par exemple font, ce qu'ont fait les États-Unis, ce que Snowden a révélé, hein, ça ne sert à rien contre le terrorisme. Ça a été prouvé plein de fois. Et là, il y a un article du Monde qui l'a reprouvé, sourcé hein, lui-même aussi. 58 des 59 attentats prévus sur le territoire français ont été déjoués avec le renseignement humain et non pas la collecte massive de données. Parce que le problème de la collecte massive de données, c'est que, effectivement, les agences gouvernementales ont plein de données, mais elles ne savent pas les gérer, elles ne savent pas les traiter. Donc, voilà. Par contre, le renseignement humain et les moyens humains et aller sur le terrain et essayer de déjouer les attentats de cette façon, c'est efficace. Encore une fois, 58 attentats sur 59 déjoués de cette façon. Alors certains diraient, oui, mais s'il y a un attentat qui a été déjoué comme ça, c'est des morts en moins. C'est vrai. Là, je vais dire un truc qui est très personnel, mais je considère que la vie privée est plus importante que ça et qu'on vivra dans une meilleure société. Voilà, malgré ça, c'est terrible, hein, c'est un avis assez, assez tranché là-dessus, mais voilà, je pense que tant pis, s'il y a 1% qui passe à cause de ça, ben ça passera quand même. Et la vie privée et vivre dans une société plus harmonieuse, je pense, est plus important. Et en fait, je vous dirais même qu'à long terme, vivre dans une société qui respecte plus la vie privée, plus équilibrée, tout ça, réduira le nombre d'attentats, tout simplement. Donc c'est, on va dire, un mal pour un bien. Mais je comprends totalement l'argument des gens qui disent si on peut éviter le moindre mort avec de la collecte massive de données, c'est un des arguments sur lesquels je peux être d'accord. Voilà, mais je pense que ça apporte plus de mal par rapport à la société que c'est quelques morts. Voilà, mais c'est terrible, hein, on est bien d'accord. Hein. Et certains diraient, oui, mais si c'est ta famille qui se prend dans un attentat, t'auras pas le même avis, bah certainement, mais parce que je serais complètement biaisé, parce que émotionnellement, je serais complètement détruit, donc évidemment. Mais d'un point de vue rationnel, et n'ayant pas, heureusement, vécu d'attentat, ou de proches ayant subi un attentat, rationnellement, je pense que c'est mieux. Voilà. Mais c'est un argument très personnel et je peux être d'accord que certains puissent le trouver choquant. Voilà, mais c'est personnel. Donc, avant-dernier truc, les manifestations à Hong Kong. Vous savez qu'en ce moment, à Hong Kong, ça chauffe pas mal. Je vous l'avais expliqué la semaine dernière. Je ne vais pas le rappeler, mais pour moi, manifester, c'est un droit fondamental. Hein, c'est super important de pouvoir râler pour faire bouger les choses. Personnellement, je considère que si on manifeste quelque part, c'est pas parce qu'on manifeste qu'on doit apparaître sur une liste ou que ça doit être sauvegardé. Je trouve ça dangereux. Et notamment, preuve que c'est dangereux, il y a des sites à Hong Kong, des sites web, qui ont vu le jour pour récolter l'information et des photos des manifestants. Une de ces plateformes qui s'appelle 803 Action, qui d'ailleurs a été créée par Leung Chun Ying, le prédécesseur de la chef de l'exécutif Carrie Lam, hein, donc celle qui a un peu débuté tout le shitstorm à Hong Kong, donc ça a été créé par son prédécesseur. Et cette plateforme promet une récompense de 1 million de dollars hongkongais si les données livrées aboutissent à l'arrestation d'un protestataire. Donc je vous raconte pas l'ambiance de délation pourrie que ça crée. Voilà, donc en fait, il y a déjà des conséquences aujourd'hui de cette récolte potentielle, hein, de cette récolte massive de données. Il peut y avoir déjà des conséquences. Et puis, dernier argument que je trouve intéressant, et comme ça, après, on va pouvoir passer au camp de fax. Si vous ne protégez pas votre vie privée pour vous, pensez aux autres. Je donne un exemple assez simple. Quand vous allez au restaurant et que vous avez Google Maps qui est activé et qui vous traque et qui, après le resto, vous dit qu'est-ce que vous avez pensé de ce restaurant ? Moi, j'ai toujours trouvé ça méga intrusif. Bref, quand vous allez au restaurant avec Google Maps activé comme ça, et que, par exemple, vous avez appelé un ami ou une amie pour aller au resto juste avant et cette amie n'a pas, par exemple, de smartphone ou elle a un smartphone mais elle n'a pas de service Google dessus, etc. etc. Google va enregistrer, évidemment, l'appel que vous passez hein, parce que c'est dans l'agenda, dans l'historique des appels et j'imagine très bien que Google sauvegarde ça. Et peut faire le lien, tout simplement. Si vous appelez une personne 30 minutes avant d'aller au resto avec Google Maps, Google peut très bien faire le lien entre l'appel juste avant et le fait que vous y soyez allés ensemble, quoi. Donc voilà. En gros, si vous ne le faites pas pour vous, pensez un peu aux autres. Mais encore une fois, je ne veux pas moraliser, je ne veux pas faire culpabiliser ou quoi. Mais juste ayez ça en tête, que effectivement, la vie privée, ce n'est pas qu'une histoire personnelle. C'est aussi une histoire des autres, quoi. Voilà. Pareil, quand on dort à l'hôtel, Google qui demande une review. Après, tu peux le désactiver, hein, clairement. Il faut savoir qu'on garde tout en pharmacie, que nos PC, ordonnances mutuelles, traitements... oui, on garde donc tout ça, pardon. Merde, tu l'as dit tout à l'heure. Le DP. Non, c'était quoi ? Le dossier médical, pardon. Oui, le dossier médical permet de voir ce que tu as pris par ailleurs uniquement avec ta carte vitale. Ok. D'accord. Le souci, c'est l'amalgame entre collecte à titre commercial contre collecte à titre sécuritaire. C'est vrai, on fait souvent l'amalgame, j'ai dû le faire un peu même dans mes arguments. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas trop mélanger les deux parce que c'est pas la même chose. Même si, fondamentalement, plus vous minimisez cette récolte-là, plus je pense que c'est mieux. Pareil sur les photos Facebook, oui, très bon exemple Pierre-Yves, effectivement, si vous prenez et vous postez des photos sur Facebook et qu'une personne n'est pas sur Facebook, ça donne à manger à l'algorithme et à la reconnaissance faciale et potentiellement vous avez inscrit une personne sur Facebook sans que vraiment elle soit au courant. Voilà. Après, c'est un mouvement dur à résister, je suis totalement d'accord. Je trouve que c'est difficile, c'est très difficile, c'est pour ça que je ne vous jette pas la pierre. Moi, ça m'a pris du temps de passer mon Android sans Google, et encore aujourd'hui, il me reste des services Google, hein, je suis pas du tout... Il faut bien comprendre que je ne suis pas du tout anti-Google, je suis pour une réduction. Un peu, si je fais le parallèle avec tout le mouvement vegan, végétarien et tout ça... Par exemple, moi, je militerais pas, si je devais militer pour ça, pour ne plus manger de viande du tout... Mais je dirais aux gens, réduisez un maximum. Parce qu'effectivement, ça a été prouvé que pour la santé, c'est pas terrible, que pour les animaux, c'est pas forcément terrible non plus, etc. etc. Je fais un peu le parallèle. Mon but, c'est pas de vous dire, dégagez Google de votre vie ou dégagez Apple de votre vie. Mon but, c'est de vous dire, essayez de réduire. C'est tout. Voilà, j'en demande pas plus. C'est essayer de réduire. Par exemple, si vous avez un trajet tout simple à faire, potentiellement, utilisez Apple Plans au lieu de Google Maps. Si c'est un trajet à pied, qu'a priori, il va vous donner des infos fiables. Si vous voulez voir un resto, au lieu de le taper sur Google Maps ou sur Google, tapez-le sur un autre moteur de recherche et regardez des avis sur Yelp, des choses comme ça. Enfin voilà, l'idée, c'est vraiment de réduire, pas de se couper complètement. Se couper complètement, c'est une étape au-dessus. Moi, je suis pas prêt encore pour ça, mais voilà. Bref, c'est terminé. Et vu qu'on a parlé de restauration, je voulais vous rappeler que...
Bien manger, c'est important.
Et comme c'est important, eh bien, en plus c'est bien parce qu'on parlait on était dans la tartine, donc c'est génial. On va passer très très rapidement au cornfax et après, moi il faut que je file parce que je bosse juste après. Donc voilà, mais on a quelques minutes pour faire les cornfax, donc c'est parti. Cornfax, vous le savez, c'est la partie de l'émission où on peut un petit peu plus discuter dans la chatroom. Donc, je regarde si j'ai pas un petit son sympa pour amener ça. Si, on peut se dire que quand je lis... Non, c'est pas rigolo. Non. Bon, allez.
Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça.
Voilà, j'aime ce son. Il n'y a pas de raison pour lequel je le mets, mais le oh purée de pommes de terre me fait pleurer de rire à chaque fois. Donc, posez n'importe laquelle de vos questions, ça peut être sur tous les sujets. Le cornfax est un aliment assez, assez ouvert. Donc, Putain, moi j'ai dégagé mon ex de ma vie, j'ai vachement gagné en vie privée amoureuse. Bah tu m'étonnes. As-tu un Google Home ou un Amazon Echo chez toi? Non, non, j'ai encore les HomePods parce que je les utilise avec l'Apple TV, mais c'est un objectif de les virer très prochainement. Voilà. Mais bon, pour l'instant, j'ai d'autres trucs à faire et c'est pas urgentissime. Plutôt raclette ou fondue? Wow. Bonjour Peganman, c'est un plaisir de te voir ici. J'ai vu que tu m'avais envoyé un message sur LinkedIn, faut que j'aille le lire. Plutôt raclette ou fondue? En vrai, la vérité, je préfère les fondues asiatiques. Si je devais vraiment ne garder qu'un seul de ça. Dans l'ordre, ça doit être fondue asiate, raclette, fondue... celle avec la viande, hein, donc c'est la fondue savoyarde, je crois. Ou non, c'est la bourguignonne, et après la fondue savoyarde en dernier. Voilà, je trouve que les bouts de pain dans le fromage, au bout d'un moment, c'est plus rapidement écœurant. Pas de Pixel 4 pour toi, non. Vous avez déjà fait de la reconnaissance faciale pour Facebook pour vous y connecter? Pas du tout, je savais même pas que c'était le cas. Tu penses quoi des assistants vocaux? Je pense que globalement, c'est pas indispensable et que tant qu'on n'est pas sûr de la façon dont les données sont vraiment utilisées et à long terme, etc., etc., je pense que c'est pas terrible d'en avoir. Voilà. Je dis ça alors que j'ai des HomePods. Hein, donc vous voyez, hein, encore une fois, je suis pas tout parfait. Hein, donc c'est, voilà, c'est très important de le préciser. Il y a une vidéo de Amixem avec le hasher qui parle du Bitcoin et de son traçage. Ok. Ok, ok, ok. Bonjour, pour quand l'iOS 13.2 version finale? Je ne sais pas, demande à Apple. Je n'en ai aucune idée. On vient de vivre la mort de 4 policiers dans la préfecture de police de Paris. J'aurais aimé que les données soient mieux utilisées. Mais encore une fois, c'est la preuve que ce qui est important, c'est le renseignement sur le terrain et mettre plus de moyens dans les policiers, les gendarmes et les agences de renseignement, plutôt que dans des systèmes qui vont aller récolter les données qui, en fait, sont pas utilisées parce qu'il y a trop de données et qu'on ne sait pas quoi en faire. Donc, voilà, mettez des moyens dans les humains, parce que ça reste le plus efficace aujourd'hui. Le bon Arthur, une petite tapette, allez, secoue-toi les nichons, ma petite cousine, putain. Kaamelott, yes. Bonjour à tous. Je trouve que le truc cliquer pour savoir s'il y a des cookies sur un site, c'est chiant. Je crois qu'il y a des extensions sur Firefox ou Chrome qui virent ce truc-là. Mais en même temps, une bonne côte de bœuf ou celle de Guérande, il n'y a rien à dire, c'est quand même meilleur que n'importe quel McDo ou autre saleté. Ah bah oui. Non mais évidemment. Et McDo, c'est pas terrible, hein, globalement. En plus, quand on fait un peu attention, on se rend compte que McDo, ça reste assez cher. Par exemple, je vais faire un peu de pub pour mon burger préféré de Toulouse. Il y a absolument rien de sponsorisé. Mais si vous allez à Toulouse, je crois que c'est pas encore dans d'autres villes, ou peut-être ils ont commencé à s'implanter dans d'autres villes, allez à Burger & Co. C'est vraiment délicieux et c'est pas trop cher. Et globalement, pour à peu près le même prix que McDo, vous avez un vrai burger et vous avez même des options végétariennes. Voilà, c'est le shameless plug de cette fin d'émission, mais j'y ai mangé, c'était hier midi, et c'est toujours aussi bon, donc je leur fais un bisou, et dites que vous venez de moi, voilà, de Guillaume Slash sur internet. Ça, peut-être, je crois qu'il y a... Enfin bref, non, bref. J'ai un diabète de type 1, j'utilise l'application Freestyle Libre sur mon smartphone, elle connaît toutes mes données sur ma glycémie, que peuvent-ils faire avec toutes mes données médicales? Bah, le problème, c'est qu'il faut que tu lises, Rakouz, la... comment dire... Il faudrait que tu lises les conditions d'utilisation des données sur l'application pour savoir ce qu'ils peuvent en faire. Ouais. Parce que s'ils peuvent les vendre à des entreprises tierces, bah, potentiellement, ils peuvent les vendre à des banques, à des assurances, et ça peut avoir un impact dans le futur de ta vie. Burger & Co, Saint-Aubin, ils sont aussi à Compense Caffarelli maintenant. Oui, oui, il y en a plusieurs, ouais, tout à fait. Mais McDo, en fait, c'est cher, et c'est pas terrible en plus, honnêtement. Voilà, quoi. Après 2 ans, mes AirPods Apple commencent à baisser en autonomie. Mais c'est un peu pour ça que je m'en suis séparé des AirPods aussi. C'est que je trouve que c'est un produit qui a une durée de vie trop basse, je trouve. Je propose qu'on fasse le mug juste entre Toulousains. Bah, il faudrait qu'on se fasse un petit truc comme ça. Mais ça pourrait être sympa que, Jérôme, si tu m'écoutes, que vous descendiez un peu l'équipe de Nowtech, venez tourner un peu à Toulouse, même tourner comme ça. Même moi, je pourrais participer à une vidéo, peut-être. Vous venez un week-end, et bah, après, c'est compliqué, parce que je pense que Karina et Hugo, eux, le week-end, ils ont envie de l'avoir pour eux. Mais ça pourrait être cool de venir et faire un petit Now Take a Drink dans le sud, ramener un peu les gens du sud, parce que pour l'instant, tout a été à Paris. Hein. Voilà. Sur Steam, j'aimais bien quand la plateforme me proposait mon type de jeu préféré. Au-delà, ce serait pas bien. Ok. Venez à Toulouse, la Garonne, c'est mieux que cette Seine pleine de Vélib. La Garonne ou le canal du Midi aussi. Au moins à Toulouse, il y aura du réseau, pas comme à Pornic. Ouais, tout à fait. Très dur la balance des blancs dans la ville rose. Oh. Non, en vrai, c'est une très jolie ville. C'est une ville très photogénique. Et Jérôme, je t'amènerai dans les petites rues de Toulouse très cool, où on pourra faire des plans très sympatoches. Voilà. Bon, allez, dernière question, et après, il faut que je file au taf. Parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Ah, alors oui, bah, Banano, j'avais pas vu ton message, bonjour à toi. Je pense prendre un RX107 pour commencer à faire de la vidéo en extérieur et à m'en servir en webcam avec un cam link. As-tu des conseils ou d'autres caméras à me conseiller? Hop là, j'ai failli renverser ma tasse. Pour faire une webcam, je trouve que ce qui est le moins cher aujourd'hui, c'est de prendre un Lumix G7 qui, niveau latence et tout, est vachement bien. Après, si tu veux un truc qui te permet aussi de tourner en extérieur, honnêtement, je sais pas, ça dépend de ce que tu veux. L'avantage du RX107, c'est que l'autofocus est vraiment cool, donc si tu veux pas trop te faire chier avec ça, c'est pas mal. En fait, je sais pas ce qu'il en est de brancher une caméra Sony sur un cam link, est-ce qu'elle reste allumée correctement, etc. Moi, je sais que le G7 de Pana, je le trouve cool pour ça, c'est qu'il m'a jamais fait chier, il est allumé, il fonctionne bien et tout est nickel. À toi de voir. Moi, je te dirais, si tu veux avoir un budget très léger, enfin très serré, prends-toi un petit G7, prends-toi un bon objectif et fais tes vidéos comme ça. Je pense que c'est pas mal du tout. Voilà. Bon, bah, bonjour. Enfin, bonsoir. J'allais dire bonsoir. Bye bye à tous ceux qui partent, hein, Olivier qui part. Mais moi aussi, ouais, je vais vous laisser. Pas sûr de vouloir faire des plans dans des petites ruelles. Non, mais n'importe quoi. Bon! Allez, je vous laisse les gens, je vais filer au taf, et je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est aussi le cas, ou au collège, lycée, études, peu importe. Donc, bonne journée à tous, merci d'avoir été là. Je vous rappelle, vous pouvez soutenir Nowtech sur Tipeee, ça paye le salaire des gens, donc c'est vachement bien. Donc, n'hésitez pas à y aller. Normalement, à 18h, il devrait y avoir le jeudi VIP, Jérôme devrait théoriquement le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à contribuer à Nowtech, n'hésitez pas à aller au jeudi VIP à 18h, et puis bah, demain, ça sera normalement Jérôme qui présentera le mug. Donc, eh bien, je lui fais plein de bisous, et je suis sûr que ça se passera bien. Allez, ciao, 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 est-ce qu'il est le teaser de fin? Il est là. Des bisous, merci d'avoir été présent, ciao!